With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Vous êtes bien sûr Radio Grande Contrôle.
Goedemiddag.
Chest.
Hola.
Ciao.
Et bonjour à tous, c'est Casimir pour l'Europe est une fête. Nous sommes à Grande Contrôle. Aujourd'hui, je suis avec Carla pour l'Italie, Ale pour l'Espagne, Cassia pour la Pologne, Ruben pour les Pays-Bas. Je vais faire un petit tour de table des comment ça va. Comment ça va, Carla?
Ça va.
Ça va.
J'ai survécu à la fête de la musique, c'est déjà bien.
C'est déjà une bonne chose. Comment ça va, Ale?
Moi, ça va. J'ai pas fait des fêtes de la musique hier parce que j'étais malade, mais du coup, je suis reposée.
Calme. Alors, c'est peut-être ta dernière aujourd'hui.
Oui, c'est ça.
Parce que tu vas retourner en Espagne, à Madrid.
C'est ça.
C'est ce que tu me disais dans l'émission. Eh oui.
Effectivement, j'ai déménagé à Paris.
Alors,
oh, il y a Madrid. Oh là là. Je suis pas encore là.
T'es pas encore prête. Comment ça va, Cassia?
Très bien. Un peu chaud, mais ça va.
Ah, ça va être la semaine prochaine, surtout.
C'est
là,
ça, oui. Ouais.
Eh oui, ça, c'est Paris. Et Ruben, comment ça va?
Très bien, merci.
En forme?
Oui, toujours.
Alors Ruben, t'es pas en blanc. On avait dit qu'on se mettait en blanc pour le thème
mais
du jour.
J'étais déjà parti de la maison.
T'étais déjà parti et tu t'es mis avec un « je peux pas, j'ai apéro ».
Oui, c'est ça un peu le thème d'aujourd'hui, non?
Non, le thème d'aujourd'hui, notre thème, c'est « Just Married » avec mon accent parfait. Donc on va parler, oui, de mariage. Alors avant, tout le monde se mariait et maintenant, tout le monde ne se marie pas. Je dois vous faire une confidence, je ne sais plus comment on fait pour se marier. Personne ne m'a appris et je n'ai que de rares exemples autour de moi. Alors comment on fait sa demande en mariage? Qui invite-t-on à un mariage? Est-ce qu'on est obligé de faire un mariage cher? Le château est-il indispensable au mariage? Est-ce qu'on peut se marier dans un kebab? Ou avec ou sans viande? Avec ou sans alcool? Avec ou sans cannabis? Avec ou sans enfant? Trop de questions, c'est trop compliqué. Alors je vais amender l'idée de me marier, à moins que mes amis européens qui sont avec moi autour de la table me donnent des envies et des idées pour me marier à l'européenne. Alors on va commencer avec celui qui s'est marié récemment, Ruben, notre néerlandais qui, pour faire simple, s'est marié avec son amoureuse italienne. On a là un véritable expert en la matière. Ruben, je te laisse la parole.
Merci pour cette magnifique introduction.
Ça y est.
Franchement, j'aurais bien voulu parler de mon magnifique mariage aux Pays-Bas, mais quand on a annoncé notre mariage aux amis néerlandais, la réaction était unanime. On va en Toscane, évidemment. On ne va pas se marier aux Pays-Bas. Et tous les Italiens ont dit, tu vas bien te marier à Paris quand même. Alors, il y avait, sur les 160 invités, il y avait zéro qui ont demandé que ce soit aux Pays-Bas.
Donc il n'y avait aucune influence néerlandaise dans ton mariage?
Tout petit peu. On a eu du gouda.
Oui.
Et Benedetta, ma femme, on peut le dire maintenant, a fait ses promesses en néerlandais. Mais disons que 95% était italien. Mais comme je suis ici pour représenter les Pays-Bas et pas l'Italie, il y a Carla qui est très bien pour ça. J'ai quand même fait une petite recherche. Et ce qui est très néerlandais et pas du tout italien est d'inviter les gens que pour la cérémonie, le déjeuner, la fête ou le dîner. Ça dépend un peu du mariage. Et apparemment, ça existe aussi en France. On m'a expliqué quelque chose comme sur le vin d'honneur et le dîner.
Alors, ça dépend des mariages. Comme je disais, je ne suis pas un expert. Moi, il y avait des mariages où il y avait des vins d'honneur avec tous les mêmes invités pour la suite de la cérémonie. Donc, c'est compliqué.
Mais je suis déjà allé dans des mariages où apparemment, oui, et aux Pays-Bas, c'est vraiment très commun que tu dis, tu viens à la cérémonie, mais la fête, non. Ou, encore pire, tu vas venir à la cérémonie, tu viens pas pour manger, mais pour la fête, oui. Alors, qu'est-ce que tu vas faire entre-temps? Tu prends un McDo ou quelque chose? Bon, ok, on va voir ça.
Tu vas chercher le cadeau.
Voilà. Et aux Pays-Bas, il y a aussi souvent un maître de la cérémonie.
Comment ça fonctionne, le maître de cérémonie, alors, aux Pays-Bas?
En fait, souvent, c'est un bon ami des mariés qui est là pour diriger un peu la journée. Alors, comme ça, les mariés ne doivent pas s'occuper de ça. Pour donner un exemple de la semaine dernière. Bon, il y a deux semaines maintenant, incroyable. Il y avait la mère de ma femme qui a demandé à tout le monde de venir chez elle à manger. Sauf qu'il fallait aller monter tous sur le bus pour aller au château. Alors, là, ça aurait été utile que quelqu'un dise... On va au bus, mais maintenant c'était nous. En fait, c'était Benedetta qui fait « Non, 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 on va sur le bus. »
D'accord.
Et là, on est parti.
C'est pour rassembler les gens parce que la foule ne respecte rien, quoi.
Oui, et surtout, on a déjà assez de stress. Alors oui, il y a tellement de choses à faire. Et surtout, pour un mariage italien, j'ai appris que c'est la folie, mais magnifique quand même. Et le numéro 3, bien sûr, les cadeaux.
Ah, voilà. Et là, la fameuse générosité néerlandaise.
Oui, en fait, je suis assez étonné par ce qui s'est passé. J'ai aussi un très beau cadeau de Kasia, on peut le dire, un beau maillot de la Pologne et une bouteille de vodka, aussi, pour ça. Mais en Italie, en fait, on donne l'argent. Carla va, je pense, confirmer ça.
Ouais.
On donne l'argent et... et pas peu, on peut dire ça aussi. Les Néerlandais, on a eu des Néerlandais, on a eu des cadeaux beaucoup plus personnels, vraiment des petits livres, des trucs comme ça. Ils ont vraiment fait des choses... vraiment pour nous. Ça m'a vraiment beaucoup touché. Alors à la fin, on peut dire que les Néerlandais étaient plus romantiques, on va dire.
Donc ouais, les Néerlandais sont des vrais romantiques alors.
On va finir sur une note positive, on va dire ça. Et pour ça, je suis venu aussi avec la chanson d'un groupe néerlandais qui fait toujours bien au mariage et surtout au nôtre, ça a très bien marché. Et aussi, toi, tu vas bien aimer, je pense, parce que c'est la chanson de l'équipe de France quand elle devient championne du monde, notamment en 98. C'est I Will Survive du Hermes House Band. Alors, allez, un peu de fête, ça fait du bien, non?
On écoute tout de suite.
You think I crumble, you think I lay down and die.
là 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 là. Bah merci pour cette ambiance fofolle, Ruben.
Oui, mais c'était comme ça le mariage. Franchement, je ne l'ai peut-être pas dit assez, mais si vous voulez vous marier, allez en Toscane. Je vous donne les adresses, franchement. À la
écoutez,
fête,
I will survive. Alors, on est en Toscane.
Mais le mariage était 100% parfait. Ouais.
C'est ce que tu disais, c'était un mariage magnifique.
Oui, du début jusqu'à la fin, petite église au début. Après, on est allé dans un château et que la bouffe italienne, ça finissait jamais. Vraiment incroyable.
Donc toute l'année d'investissement, mais finalement un grand bonheur.
C'est ça, exactement.
Carla, tu voulais rajouter quelque chose?
Oui, non, parce que là, j'y réfléchissais, que du coup, là, tu vas prendre aussi la nationalité italienne, donc tu vas me remplacer.
Non.
Il a déjà commencé, en fait, subtilement.
Non,
c'est ça. Il a commencé à raconter des trucs sur l'italien.
Bon, c'est beaucoup plus difficile de faire des choses critiques sur l'Italie. C'est pour ça que c'est drôle sur les Pays-Bas.
Ouais.
On peut parler de la maître de cérémonie.
Tiens, l'aide, là.
Allez.
T'es irremplaçable, Carla, t'inquiète pas.
Ouais, non, mais j'ai rigolé.
On va écouter maintenant Cassien pour comprendre les mariages à la polonaise.
Oui, donc je dois vous avouer que j'adore absolument le sujet de notre émission d'aujourd'hui. Parce que la façon dont les Polonais célèbrent le mariage, on dit beaucoup sur notre société et son évolution.
Alors, peux-tu nous dire ce que l'on apprend sur vous, les Polonais, lors d'un mariage en Pologne?
Oui, bien sûr. On apprend que les Polonais ont quelque chose qu'en France, on appelle l'essence de la fête.
Mm-hmm.
Et parce qu'on est plutôt sérieux et on travaille, on travaille beaucoup dans la vie de tous les jours. Mais quand les week-ends du mariage arrivent, on ne fait pas des choses à moitié.
Et qu'est-ce que tu entends par là?
Cela veut dire que, par exemple, quand on se met toujours sur son 31 le jour J, ça veut dire costume, cravate ou nœud pape pour le monsieur. Et en sachant qu'une simple veste et un jean sera très mal vu. Pour les femmes, alors, passage obligatoire chez les coiffeurs, l'esthéticienne. Et le choix de la tenue est aussi super stratégique.
C'est stratégique, carrément.
Ouais, vraiment. Hein. Après, je n'ai pas le temps d'expliquer pourquoi, mais c'est vraiment important. D'habitude, on fait même un peu trop, mais c'est de côté légèrement kitsch des fêtes à la polonaise, j'adore absolument.
Justement, comment on fait les mariages à la polonaise? Est-ce qu'il y a une différence avec les autres pays?
Oui, absolument. Et je pense qu'un étranger qui se retrouve dans un mariage en Pologne comprendra assez rapidement qu'il s'agit de quelque chose de très particulier. Il faut dire qu'avant, on organisait des mariages vraiment énormes. 150, 200 personnes, même plus. C'était pour faire plaisir à la famille et pas aux mariés. Maintenant, les soirées de mariage, je dirais, sont beaucoup plus intimes, mais nous avons réussi à conserver certaines spécificités locales.
Quelles spécificités, par exemple?
Niveau nourriture, par exemple, on ne se limite pas à l'entrée, au plat et au dessert. Après les dîners principaux, attention, on mange encore au moins 3 ou 4 repas chauds.
Après le dîner, vous mangez
ça.
3 ou 4
oui,
plats chauds.
Mais je vous explique pourquoi.
Oui, je veux bien, oui.
Oui, je sais que c'est beaucoup, mais c'est justement pour pouvoir tenir sur la piste de danse jusqu'à l'aube, parce que parfois ça dure jusqu'à 6 ou 7 heures du matin.
Il y a des gens qui prennent la drogue.
Oui, c'est ça. Il suffit de manger des plats chauds.
Ouais, c'est ça. Ouais. Voilà. Et pour ça, il faut avoir de l'énergie.
Oui,
et
c'est ça.
Voilà. Et en plus, il faut amortir les effets de la vodka, bien sûr.
C'est surtout ça, oui.
Bah oui.
Il faut éponger tout ça.
Parce qu'on va les servir à volonté et sans aucune modération. En tout cas, la fête se prolonge le dimanche, car on se retrouve pendant l'après-midi dans une ambiance un peu plus décontractée quand même. Et sinon, côté musique, on adore les rythmes endiablés qui font danser et chanter tout le monde. Et par exemple, c'est la Macarena.
très bon choix, très bon goût.
Oui, les rock and roll, les twists ou encore les tubes des années 80, 90, comme je sais pas les tubes de Whitney Houston, Tina Turner, bah ouais, et ou Enrique Iglesias. Bah pourquoi pas.
très culture locale quoi tout ça.
Bon. Mais oui, je vais y arriver parce qu'il y a aussi le fameux disco polo. C'est un genre de musique.
Disco polo.
Oui, c'est un genre de musique, je dirais plaisir coupable, qui s'est développé en Pologne dans les années 90. Souvent interdit pendant les mariages plutôt chics. Il refait toujours surface grâce ou, je dirais, à cause des invités qui forcent les DJ ou les groupes à jouer quelques morceaux. Sinon, pendant chaque mariage polonais, il y a au moins une victime de la vodka.
Au moins une. Au moins une.
Mais c'est vraiment au moins une.
Les victimes de la rue et les victimes de la vodka
au mariage polonais.
Bah oui, donc ces gens des victimes, il faut évacuer discrètement par la porte derrière. voilà, voilà. Ou encore, il y a toujours un vieil oncle avec son gros ventre et sa moustache qui a lui aussi déjà un peu trop bu et qui force les jeunes filles à danser avec lui.
Ah, voilà.
Oui. Et bon, et j'avoue que tout n'est pas toujours doux.
Qui est la victime à ce moment-là.
C'est vrai, oui. Et j'avoue que tout n'est pas toujours du meilleur goût dans ces genres de soirées, mais vous l'avez compris. Que s'il y a quelque chose que l'on ne peut pas reprocher aux Polonais, c'est de ne pas savoir faire la fête.
Ça, c'est sûr. Tu as une chanson à nous faire écouter?
Oui, oui, bien sûr. C'est une chanson, c'est un morceau, je pense, qui est indispensable pour toute soirée de mariage, digne de ses noms. Il s'agit d'une collaboration entre Kaya, qui est une chanteuse polonaise, et Goran Bregovic, un compositeur serbe. Les résultats de cette collaboration, c'est un mélange sublime, je dirais, de la musique populaire polonaise et du folklore des Balkans. Et tout ça avec un peu d'influence gitane en plus. Et la chanson s'appelle Prawe do lewego, qu'on traduit comme des droites à gauche, car quand on emporte des toasts, on se tourne vers nos voisins de chaque côté de la table en les invitant à boire.
Donc c'est une chanson autour de l'alcool, principalement, finalement.
Bon, bah, ouais, enfin, bon, écoutons.
Eh bien, on écoute tout de suite.
Ouais.
Pravi des Lego. Grosse ambiance. Ça me fait penser un peu aux musiques et aux BO des films d'Emir Kusturica.
C'est ça, oui.
Voilà, petite référence culturelle.
Exactement.
Alors, tu t'es mariée il y a 3 ans et tu ne nous as pas parlé pendant ta chronique. Comment ça s'est passé?
Ça s'est passé très bien aussi. Mm-hmm,
pas de victime?
Bon, au moins une aussi. C'était déjà il y a trois ans.
Ruben est mort de rire. Alors, je ne sais pas ce qui se passe.
Je pense que je sais qui c'est, mais je ne vais pas le dire.
Ouais, mais si jamais elle écoute l'émission, bref. C'était...
Elle, d'accord. Donc,
elle, ouais.
Déjà, c'est une femme. On va réussir à savoir qui c'est. Donc, c'est une femme. Elle est âgée entre 25 et 35 ans. Donc, ça s'est bien passé, ce mariage.
Ça s'est très bien passé.
Dans l'ensemble.
Dans l'ensemble, on s'est mariés à la mairie en France. Mm-hmm. Et ensuite, on a fait un grand mariage religieux à Cracovie. Donc, c'était aussi un peu mélange des invités des deux pays, mm-hmm. De France et de la Pologne. Et je pense que
Car ton mari est français.
Exactement.
D'accord.
Voilà.
Ah bah, en tout cas, quand tu as parlé, Cassia, de Disco Polo,
oui.
Moi, je pensais que c'était des gens qui dansaient Bruno Mars sur un cheval, quoi, tu vois, en se passant. J'ai eu cette image, toi, dans ma tête.
Ouais.
Ça pourrait être bien, ça, non?
Non.
Ouais.
Bien, merci Cassia.
Avec plaisir.
La prochaine fois, alors toi, t'es mariée, Ruben. Cassia, t'es mariée. Donc nous, on va faire des mariages aussi bientôt, hein, parce que ça va être notre tour. Hein. Et en tout cas, on va aller en Italie avec Carla pour que tu nous expliques comment ça se passe en Italie.
Disait un cher ami à moi, la voglia di sposarsi è come la voglia di andare a cagare. L'envie d'être marié, c'est comme l'envie de chier. Quando l'hai fatto, t'es passata la voglia. Une fois que tu l'as fait, t'en as plus envie.
Oh là là, c'est charmant, d'accord.
Je suis grise. Mais c'est pas faux. Bon, les mariés, ne m'écoutez pas. Hein. Mais vraiment, qui voulez-vous? Moi, j'ai grandi dans un pays hyper catholique où le mariage est souvent... Je dis pas tous les mariages, mais mm-hmm. le mariage est souvent une grosse baraconade où on ressent tout sauf l'amour de deux mariés. Il n'y a pas de vente d'honneur, il n'y a pas de discours de témoin. On fait ce qu'il fait tout le monde, hein, on bouffe jusqu'à mourir, on danse des chansons moches, on reçoit et on offre des cadeaux moches, hein, notamment les bonbonnières. Donc, oh là là, je suis grise, je suis désolée. Mais voilà, en Italie, évidemment, le mariage est sacré, c'est pas un secret, et c'est tellement sacré que le divorce est resté interdit en Italie jusqu'au 1er décembre 1970. Et jusqu'il y a 2 ans, même les temps de séparation requises étaient encore de 3 ans. Donc, globalement, admettons, tu te mariais, non? Tu voulais te séparer. Tu déposais ta demande de séparation. Il passait environ 1 an pour la faire valider. À partir de ce moment-là, ça démarre le compte au rebours de 3 ans. Quand les 3 ans se sont écoulés, si tu faisais rien, l'État considérait que tu restais séparé et que tu pouvais toujours changer d'avis. Et si tu voulais retourner avec ton mari, tu devais faire aucune paperasse. Mais si tu voulais vraiment divorcé, tu devais te rappeler avec ton ex-mari, les avocats, compagnie, se donner un sympa rendez-vous au barreau. Et franchement, se revoir avec son ex après 4 ans, non, c'est jamais un bon délire, je pense qu'on est tous d'accord. T'es qui, toi? Mais pourquoi on était ensemble? Ça te rappelle toute une série d'erreurs, des choses que t'aurais jamais dû faire, notamment t'es marié. Voilà. Heureusement. Maintenant, ils ont réussi à changer et on peut divorcer en 12 mois, comme dans tous les pays civilisés qui ont compris que l'amour éternel n'existe pas. Oh là là, je suis grise. Tout ça, pour vous faire comprendre comme longuement l'institution du mariage a été protégée dans mon pays. Mm-hmm. Et on ne peut pas parler de mariage à l'italienne sans parler du film de Vittorio De Sica, je ne sais pas si vous l'avez vu, mm-hmm. avec Marcello Mastroianni et Sofia Loren, hein, tiré de la pièce de théâtre d'Edoardo De Filippo, Filomena Marturano. Histoire d'amour déchirante où le mariage reste le symbole de la consécration publique et sociale de l'amour. Et qu'ils sont beaux, Marcello et Sofia. Même s'ils se font des bisous un peu bizarres, voilà, un peu comme ça, un peu figé dans les films. Mais le film, il faut dire, il vieillit bien. Bon, pour la faire bref, la trame, c'est tout ce qui s'est passé dans la suite de Pretty Woman de Richard Gere. Si Richard Gere était finalement un gros salaud.
Hein. Ah, c'est ça.
Tout le monde connaît Pretty Woman, hein,
oui,
d'accord.
Oui, oui.
Hein, voilà. Mais l'happy end, à la fin, est assuré. Donc, j'aimerais partager avec vous l'un des monologues plus beaux de l'histoire du théâtre italien. Même si vous spoil un peu le film, hein, mais c'est pas grave. Alors, Casimir, tu veux bien jouer le rôle de Marcello Mastroianni pour moi, hein?
Je suis prêt.
Ok, tu dois rien dire, juste m'écouter. Moi, je fais Sophie.
D'accord, très bien.
Domenico, tu te rappelles il y a longtemps, un soir, tu m'as dit, Philomène, faisons semblant de nous aimer pour de vrai. Moi, ce soir-là, j'étais vraiment aimée. Mais pas toi. T'as fait semblant. T'es parti et tu m'as laissé de l'argent. Ton usuel billet de sang. Le voilà, c'est lui le billet. J'ai marqué la date par-dessus. T'es parti, t'as disparu pour quelques mois, comme d'habitude. Et quand t'es revenu, j'étais né un bidon gros comme une maison. J'ai demandé à quelqu'un de te dire que j'étais malade et que j'étais partie à la campagne. Tiens, reprends ton argent. Les enfants, on les paye pas.
Si avesse fatta notte quella che fatta a me, stomma t'avesse acceso e vuoi sapere perché? Perché in coppa sta terra femmina come a te non c'hanno sta panomma onesta come a me. Femmina, tu sei una mala femmina, chi sto e chi è fatta chiagnere, lacrime infamità. Femmina, se tu peggi una vipera, mentre sei cata l'anima, non posso più campare. Femmina, si doccia come zucchero, però sta faccia d'angelo ti serve per ingannare. Femmina, tu sia più bella femmina, te voglio bene e t'odio, non te posso scordare. Très
jolie musique, mais qu'est-ce que c'est?
C'était Mala Femmina, monsieur Mourolon, Totan.
Mala Femmina, qu'est-ce que veut dire Mala Femmina?
Ça veut dire prostituée, voilà, juste qu'on peut parler de Pretty Woman. Mala Femmina, ça veut dire prostituée en napolitain.
D'accord. Voilà. Très bien. C'était super cette chronique critique envers le mariage. On se disait c'est super, on peut se marier, mais on peut aussi divorcer, aussi être pas d'accord avec le mariage. Comment vous le divorce, ça vous parle à vous? Je me tourne vers les deux mariés, tu vois, le récent.
Je me demande même si je me suis vraiment marié en Italie ou c'était un autre pays en fait où c'est, ça s'est passé.
Oui, c'est ça. On a l'impression que c'est deux façons de deux points de vue différents. Et
c'est vrai que je suis allée au mariage de ma meilleure amie là il y a 5 ans et c'était magnifique, hein. Voilà, franchement, c'était le meilleur. J'ai pu chialer, on sentait beaucoup l'amour et tout. Voilà, mais c'était juste comme ça. Parce que je savais que tout le monde allait dire des choses géniales, mais c'est le mariage. Voilà.
Alors que oui, le mariage, c'est aussi parfois des choses compliquées.
Oui, voilà.
On va parler de mariage en Espagne avec toi, allez, maintenant.
Ça marche.
Allons-y.
Et puisqu'on a fini avec l'Italie et juste avant, en fait, j'ai trouvé des données de l'Eurostat de 2017, comme quoi, en fait, l'Eslovénie, c'est le pays où on se marie les moins en Europe, et après, c'est l'Italie.
Ah,
j'ai raison.
Pourquoi j'ai raison? On a entendu,
j'ai peur pour le divorce derrière.
J'ai pas regardé les données des divorces. Et en fait, de l'autre côté, on a la Lituanie qui est le pays où on se marie le plus en Europe. On n'a pas.
En Lituanie?
Oui.
Donc, Ruta.
C'est ça,
Ruta. Ruta n'est pas mariée.
Non, mais non. Ruta doit respecter les statistiques de la Lituanie.
Ouais, c'est son devoir.
Si tu nous écoutes, Ruta, dans 3 mois.
3 mois, c'est, on te donne 3 mois, Ruta.
On est tous dispo. Allez.
Voilà, c'est ça.
21 août. Non, 21 septembre.
C'est ça.
Bon, du coup, en fait, en Europe, on s'est mariés de moins en moins. Mm-hmm. Et c'est pareil en Espagne et aussi en France, qui ont presque les
Qu'est-ce qui se passe alors en France et en Espagne?
Alors, j'ai trouvé qu'en Espagne, de chaque 1000 habitants, il y a 3,7 qui se marient. Mm-hmm. Et en France, un peu moins, c'est 3,4. Mais on est dans les pays qui se marient les moins.
Ah bon?
Et du coup, je vais vous parler un peu de comment ça se passe en Espagne, de comment et quand on fête ça dans mon pays. Comme vous le savez sûrement, l'Espagne était, comme l'Italie, est un pays avec une très forte tradition catholique. Mmh. Mais contrairement à ce qu'on peut penser, aujourd'hui, les mariages religieux sont de moins en moins courants. On a actuellement 27% des mariages qui se font à l'église.
Ouais.
Quand en 1996, il y avait 77%.
1996, c'est
il y a
25 ans. Ouais, c'est ça, 23, ok.
Ouais, donc ça a vachement réduit. Mm-hmm. Et du coup, il y a aussi d'autres choses qui ont fait que les traditions en Espagne changent un peu. C'est la légalisation du mariage homosexuel qui a eu lieu en 2005. Et qui a fait d'Espagne le troisième pays au monde à avoir autorisé les mariages entre personnes du même sexe.
Bravo!
Ouais, c'est trop bien.
Sur le podium, bravo!
Non, mais c'est un truc que j'aime bien. C'était sous les gouvernements de Zapatero, qui est du Parti Socialiste Espagnol. Et en fait, du coup.
Mais pas à l'église quand même. Ça restait à la mairie, c'est
bien. Ah non, non, à la mairie, oui, bien sûr.
Tu
On n'a pas révolutionné non plus.
Si j'ai pointé, t'es
Tu rigoles, tu dois parler avec le pape pour faire ça.
C'est un peu compliqué, mais bon. Et du coup, en fait, les records, pour vous donner une idée, les records des mariages entre femmes a eu lieu en 2016 et les records pour les hommes a eu lieu en 2006, juste après la loi, parce qu'il y avait un peu une euphorie par rapport à ça. Et après, je me suis un peu renseignée. Moi, j'ai 34 ans. Mais je ne suis pas encore mariée.
C'est pour bientôt aussi.
Je ne sais pas. On verra. Mais je me suis posé la question, est-ce que je suis en retard par rapport au reste de mes compatriotes?
Oui. Et alors?
Et en fait, les Espagnols se marient assez tard. J'ai trouvé des données de 2016. Et en fait, les hommes, ils se marient en moyenne à 35 ans. Mmh. Et les femmes, autour des 33 ans.
Oui, donc c'est à peu près... c'est maintenant, quoi.
Oui, c'est maintenant.
C'est pour bientôt, la fête, alors. C'est bien, ça.
Et Ruta et Ale, ça va être... Oui,
c'est ça.
C'est sympa, bientôt.
Et bon, et du coup, je vais vous parler un peu de la fête, de comment ça se passe en Espagne. Mmh. En général, les mariages en Espagne sont en été. Et septembre est le mois préféré par les Espagnols pour se marier. Et ça se fait toujours, presque toujours un samedi, même si maintenant, on commence à faire des mariages les vendredis.
Oui, on fait ça beaucoup aussi en France maintenant.
Je ne sais pas pourquoi.
Raison économique, principalement. Enfin, moi, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui m'ont dit que le vendredi, c'était moins cher. Et puis, en plus, l'avantage, c'est que tout le monde se prend son jour le vendredi de congé. Et ça fait un week-end de 3 jours. Et
donc, ça
fait un
vrai week-end de mariage. Mais moi, j'ai trop sachant de devoir prendre un jour, je sais pas.
Oui, c'est ça. Oui, mais je n'aime pas trop. Je ne prends pas mon jour de congé pour un mariage. Là, c'est des logiques et un peu des calculs un peu particuliers. On se laisse aller continuer.
Ouais, bon.
Non, mais c'est vrai, c'est un mariage. À la fin, on calcule comment on fait les jours de congé. Enfin,
c'est
le monde moderne, quoi.
Mais bon. Du coup, la célébration, ça peut être un dîner ou un déjeuner, au choix. Mm-hmm. Mais maintenant, la veille, en fait, avant, on fait un truc qu'on appelle la préboda. C'est quelque chose qu'on ne faisait pas avant et qui s'est fait de plus en plus maintenant. La préboda, en fait, c'est...
comment tu dis préboda?
Préboda, pré-mariage, en fait.
Ah, préboda, c'est ça?
Oui.
Ah, je le dis mal, préboda.
Non, c'est très bien.
Ah, bon. Donc, le pré-mariage.
Oui, et en fait, on commence à faire ça parce qu'il y a de plus en plus, les Espagnols, ils sont un peu partout. Mm-hmm. Et quand on fait un mariage, il y a beaucoup de gens qui viennent d'ailleurs. Et on fait ça pour faire que les gens se rencontrent avant les jours du mariage. Et les jours même, en fait, comment ça se passe, il y a une cérémonie civile ou religieuse, on a l'apéritivo, où les gens, ils mangent un peu, boivent debout, mais c'est pas du tout les concepts français du vin d'honneur, justement, tu parlais de ça tout à l'heure. Nous, quand on invite quelqu'un au mariage, il est invité à l'intégralité de l'événement.
Tant mieux.
Et même à la préboda, donc tu vois, c'est vraiment quelqu'un.
Ouais, même à la préboda, c'est ça. Et bon, après, on a les repas, je pense que c'est un peu comme dans les autres pays, comme en Italie, on mange
beaucoup.
Sauf
en Pologne, hein, parce qu'apparemment, en Pologne, on a 14 plats chauds.
Non, mais on a des plats chaud, nous aussi, pendant la fête, en fait.
D'accord.
Mais pas trois, déjà. Et après, bah, on a les vals et on fait la fête toute la nuit. Et traditionnellement, on finit par les chocolates con churros avant de se coucher. Mais maintenant, de plus en plus, comme ça dure tellement longtemps, bah, on a des plats chauds à volonté au milieu de la fête, en fait.
Et qu'est-ce qui se passe après toute la cérémonie, alors ?
Alors, il y a les voyages de noces, qui s'appellent la luna de miel, en espagnol.
Lune de miel, oui.
Et en fait, j'ai appris qu'en Espagne, c'est le pays où les gens ils parlent le plus en voyage après les mariages. Les 90% des gens qui se marient partent juste après. Mais je crois que j'ai trouvé la raison, parce qu'en fait, j'ai comparé avec la France, et en France, les congés pour les mariages sont entre 1 et 5 jours ouvrés. Et en Espagne, les congés durent 15 jours calendaires.
Pour le mariage ?
Oui, donc c'est des belles vacances.
Magnifique, je vais me marier en Espagne. C'est un bon plan, tu te maries en Espagne.
Ça fait des belles... l'employeur espagnol.
Si c'est ça, l'employeur espagnol, surtout.
C'est ça, oui, il faut travailler d'abord en Espagne, mais bon, c'est un bon plan. Et du coup, je voulais vous laisser avec une chanson qui parle des luna et miel, qui s'appelle « Noche de bodas » de Joaquín Sabina.
On écoute tout de suite.
Que el maquillaje no apague tu risa, que el equipaje no lastre tus alas, que el calendario no venga con prisa, que el diccionario detenga las balas, que las persianas corrijan la aurora, que gane el quiero la guerra del puedo, que los que esperan no cuenten las horas, que los que matan se mueran de miedo, que el fin del mundo te pille bailando, que el escenario te tiña las canas, que nunca sepas ni cómo ni cuándo, ni siento volando, ni ayer ni mañana, que el corazón no se pase de moda, que los otoños me doren la piel, que cada noche sea noche de boda, que no se ponga la luna de miel, que todas las noches sean noches de boda, que todas las lunas sean lunas de miel. Que las verdades no tengan complejo, que las mentiras parezcan mentiras, que no te den la razón los espejos, que te aproveche mirar lo que mira, que no se ocupe de ti el desamparo, que cada cena...
Merci Alé pour cette chronique. Alors la pré-boda, c'est marrant parce que Ruben m'en parlait tout à l'heure pendant une musique, je ne sais plus à quel moment. Il me disait on a fait un match de foot la veille. Raconte-nous un peu comment ça s'est passé la veille de ton mariage.
Fait, on avait dit qu'est-ce qui peut unir les Italiens et les Néerlandais. Bon, c'est pas trop la bonne musique ou la bonne bouffe. Alors faisons un match de foot. Tout le monde sait faire ça. Alors, on avait trouvé un terrain, bon, je peux dire, plus que catastrophique en Toscane. Ce qui était très drôle parce qu'il y a un monsieur qui est venu préparer le terrain avant. Bon, il n'y avait franchement rien à préparer. Champ de patates, c'était trop sympa pour dire ça. Mais on est venu de l'hôtel avec tous les Néerlandais. On était 25, tout le monde en orange. On fait ce défilé, comme on voit maintenant pendant la Coupe du Monde féminine en France partout. Et on arrive au terrain, il y a juste ma femme et son frère. Et on attendait, on se disait, tous les Italiens, comme assez souvent, étaient un peu en retard. Mm-hmm. Et après, ils sont venus et on a joué 8 contre 8. Et c'était une énorme fête. Et les Néerlandais ont égalisé dans la toute dernière seconde. Et
comme par hasard.
Et tout de suite après, avec son frère, on s'est regardé. On a dit, ah, match nul, c'est une bonne idée. Comme ça, demain, on ne va pas se frapper autour de la table. Mais c'était super parce que ensuite, pendant le mariage, il n'y avait pas le monde mais qui était à la même table et tout ça, ils se connaissent déjà. C'était
c'était vraiment dommage pour le témoin qui s'est cassé la jambe.
C'est pour ça que j'ai dû être gardien pendant on a joué environ 70 minutes, j'ai joué pendant 60 minutes en gardien parce qu'ils avaient peur que j'allais casser quelque chose. Juste la dernière 10 minutes.
Ils n'avaient pas peur pour toi, ils avaient peur pour les autres, c'est
non,
ça.
Non, surtout pour mes jambes.
Ah, pour toi surtout. Et tu parlais aussi pendant ta chronique des mariages de vendredi.
Nous on a un proverbe, oui, une façon Italie, de dire en italien, et on dit di Venere e di Marte non si sposa, non si parte, non si dà principio all'arte. Le mardi et le vendredi, on se marie pas, on part pas et on crée pas une œuvre d'art, une entreprise, parce que le mardi c'était le jour du dieu de la guerre, mm-hmm. et le vendredi c'est le jour où sont nés les esprits maléfiques du monde. Voilà.
Nous, on a la même, mais seulement pour les mardis et seulement pour les mariés, pas pour les œuvres d'art. Mais je pense qu'on ne faisait pas autant d'œuvres d'art.
Donc, pas de mariage le mardi, ça c'est sûr. Et le vendredi, pas de mariage en Italie.
Non, ça c'est sûr. Il n'y a personne qui se marie le vendredi en Italie.
Très bien. Et alors, la dernière réflexion qu'on avait, c'était sur les mariages religieux ou pas. Et Ruben, tu nous disais que toi, tu avais fait un mariage religieux, finalement, et que tu trouvais ça plutôt bien, alors que tu ne défendais pas forcément ses convictions. J'ai résumé, mais j'ai peut-être...
Non, c'est très bien dit. Ouais, en fait, comme elle est religieuse, elle est catholique, mm-hmm. et bon, on voulait se marier
dans son village.
Oui, pardon, mm-hmm. ma femme. dans son village, il y a un restaurant, un bar et une église. Bon, mm-hmm. on aurait pu le faire dans le restaurant et dans le bar, mais on a choisi l'église. Mais il fallait que ce soit... religieuse, évidemment. Alors, mm-hmm. J'ai suivi le cours de mariage à l'église italienne de Paris. Pendant 4 samedis, on y est allé. Mm-hmm. C'était excellent. Je dois dire que le deuxième samedi, il y avait déjà un couple qui n'était plus sûr de se marier. Alors, ça allait plutôt vite. Et on m'a appris plein de bons proverbes, comme l'amour, c'est comme un vélo. Il faut toujours continuer à pédaler ensemble parce que si on reste, autrement, on va tomber si on ne continue pas à pédaler. Alors, il faut toujours que l'amour soit en mouvement. Bon, magnifique.
Rappelons que Ruben est fan de vélo.
Oui, c'était même pas pour ça.
C'est l'image, ça lui a parlé.
Et après, j'ai dû aller chez l'évêque à Pescia, en Toscane, et, mm-hmm. Pour donner avoir le corps. Et il me regardait, il dit, pourquoi vous ne croyez pas? J'ai dit, bon, je suis désolé, mais ça s'est passé comme ça. Ma mère était catholique, mon père protestant, alors moi, athée.
J'ai préféré pas me positionner.
En néerlandais, on dit deux religions sur le même oreiller. Il y a le diable qui couche entre les deux. Alors, mais ça, je n'ai pas dit à l'évêque. Mais en tout cas, il m'a dit, bon, c'est toujours mieux être protestant qu'athée. Alors bon. J'espère qu'il n'est pas trop fâché avec moi, mais j'ai pu me marier en fin de compte. Alors,
Des réactions sur les mariages religieux ou pas, les autres, les uns les autres? Non, parce que sinon on passe au jeu directement. Pour commencer, le sujet, c'est le mariage. On peut avoir plusieurs bonnes réponses, c'est un quiz, c'est simple. J'ai 3 questions. Bien sûr, celui qui gagne paie sa tournée, comme à chaque fois. Première question, pourquoi jette-t-on du riz sur les mariés à la sortie de la mairie ou de l'église? Alors, j'ai des propositions. Tradition du Moyen-Âge, l'objectif à l'époque était d'attirer les colombes. Et on a gardé cette tradition. Alors, c'est la deuxième possibilité. C'est lié à une pub Oncle Ben's qui a inspiré des générations de mariés aux États-Unis et cette culture s'est répandue à travers le monde. La troisième possibilité, c'est que ces petites graines symbolisent la fécondité et la prospérité. Quatrième réponse, c'était à l'origine pour les mariages d'hiver, quand qu'on n'avait pas de pétales de fleurs à lancer. Donc on lançait du riz, et finalement le riz est resté même en été. Et la dernière réponse, c'est lié à une tradition chinoise que l'on a reprise en Occident. Alors,
c'est la fécondité.
La prospérité. Ouais.
Ah d'accord, ok. Bon, oui, c'est ça, en fait. Cela permettait tous les autres de les inventer.
Les Chinois, c'était pas mal.
Donc voilà, ces petites graines symbolisent la fécondité, la prospérité. Cela permet ainsi d'assurer la descendance des jeunes mariés et de garantir leur bonheur. C'est un symbole. Deuxième question, pourquoi porte-t-on une alliance à l'annulaire de la main gauche? Alors, je vous dis les propositions. Ça vous... Alors, au Moyen-Âge, un mariage a été célébré par le pape en personne et la mariée était gauchère. Naturellement, elle a tendu sa main gauche. Mmh. Et c'est pour ça que c'est resté à la suite de ça, pour pas créer de malaise. Alors, c'est une tradition qui remonte à l'époque de l'Antiquité grecque et égyptienne. Les deux à la fois. La troisième possibilité, l'annulaire de la main gauche serait le seul à posséder une veine reliant directement au cœur, qu'on appellerait la veine de l'amour. Et la dernière possibilité, c'est que les autres doigts étaient déjà pris, l'un pour sucer son pouce, l'autre pour montrer du doigt, le suivant pour insulter et le dernier pour se nettoyer les oreilles.
Ah, j'aime bien celle-là, moi.
ça en Italie, même les cinq, on va dire, non, pour faire ça.
D'ailleurs, en Espagne, on les porte dans la main droite.
Ah!
On ne les porte pas dans la main gauche.
C'est bon. Pareil en Pologne.
Ah, bon, ah oui, on porte la main droite.
Je ne sais pas pourquoi.
Oui, mais c'est l'histoire de la veine, la vérité.
La vraie histoire, c'est l'histoire de
la veine qui va jusqu'au cœur.
C'est la veine de l'amour, exactement. Ouais. Alors, il y a aussi c'est une tradition qui remonte à l'époque d'antiquité grecque et égyptienne. Il y avait deux réponses possibles. Et donc, en Espagne et en Pologne, c'est la main droite. Vous savez pourquoi?
Oui, je ne sais pas pourquoi.
Parce que vous avez une autre veine, c'est ça? C'est pas les mêmes humains. Comment ça se passe?
Non, je sais pas pourquoi.
Bon, on va regarder ça. Je pose la troisième question et on regarde ça entre temps. Pourquoi est-ce que la mariée porte une robe blanche? D'ailleurs, on s'est tous mis en blanc aujourd'hui pour symboliser le mariage. Ouais. Alors, première réponse possible, le blanc est symbole de pureté, virginité et d'innocence de la future mariée. En Grande-Bretagne, deuxième réponse possible, en Grande-Bretagne au 19e siècle, la reine Victoria se mariait avec une robe en satin blanc et c'est elle qui a lancé cette mode. La troisième réponse possible, une robe blanche ne doit pas se tacher. Ainsi, la mariée a toujours une bonne excuse pour ne rien faire à son mariage. Quatrième, là, je ne vous sens pas convaincu sur celle-là. Quatrième possibilité, pour que l'on voit la mariée de jour comme de nuit, il fallait qu'elle soit habillée en blanc. Donc voilà, il y a aussi des versions de robes phosphorescentes apparemment. Donc quelles sont à votre avis la raison qui fait que pourquoi la mariée porte une robe blanche?
La première.
Une et deux, donc la première c'est blanche, et le blanc est symbole de pureté, virginité, d'innocence de la future mariée, c'est vrai. Et la deuxième, en Grande-Bretagne au 19e siècle, la reine Victoria se mariait avec du satin blanc et en fait c'est resté.
C'est vrai aussi.
En fait, au Moyen-Âge, il y a une période où en Occident, on ne se mariait plus en blanc. On prenait du rouge et du noir parce que c'était plus facile pour les teinturiers.
Ah bah.
Voilà, un petit moment d'histoire. Et en fait, c'est revenu notamment à partir de cet événement. Allez, est-ce que tu as trouvé la raison qui fait que vous portez des alliances
sur
la... Vous trouvez où
les pays où, en fait, c'est pour la main droite.
Bah, dis-nous ça déjà, si tu l'as sous les yeux.
Alors,
on va trouver ça.
Les pays où on met l'alliance côté droit, c'est Norvège, Danemark, Autriche, Pologne, Espagne, Belgique, ça dépend où. En fait, j'ai lu qu'en Espagne, ça dépend. En Catalogne, c'est dans la main gauche, mais je ne sais pas pourquoi.
Ça dépend des régions.
Oui, il y a deux régions où on
ça
les porte.
Ça va rester un mystère.
Oui, c'est ça, je pense que ça va rester un mystère.
Je les trouverai, mais là, tout de suite, je n'ai pas trouvé. En fait.
Eh bien, on va inviter nos amis à réagir sur les réseaux sociaux pour trouver cette réponse. Eh bien, merci à tous pour cette émission.
Merci.
Merci aux mariés, merci aux non-mariés, merci à ceux qui vont se marier d'avoir participé. Merci Grande Contrôle d'accueillir l'émission. Merci Mathilde, ma fée. Merci à PA qui est aux manettes et à qui on souhaitera un très beau mariage le jour où ça viendra. Vous pouvez retrouver l'émission sur Deezer, sur Facebook, sur SoundCloud et même sur le site de Grande Contrôle. Et n'hésitez pas à nous dire pourquoi on porte l'alliance sur la main droite dans tous ces pays. Merci beaucoup. On se dit au revoir dans tous les pays, les amis. 1, 2, 3.
Au revoir.
Ciao.
Salut.